Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Aujourd'hui, nous célébrons une des grandes fêtes de l'année liturgique, la Pentecôte. Cette fête est souvent présentée comme la venue de l'Esprit-Saint dans le monde. Mais nous pourrions nous étonner, car déjà dans l'Ancien Testament, l'Esprit était présent. L'Esprit-Saint a toujours existé, comme le Fils, il procède du Père, et à l'égal du Fils, sa source est dans le Père. Mais dans l'Ancien Testament, il n'apparaissait pas comme une personne, mais comme un souffle, une énergie. C'est le souffle de vie insufflé dans les narines de l'homme qui le rend vivant, comme on peut lire dans la Genèse au chapitre 2. C'est la flamme de feu qui brûle dans le buisson ardent devant Moïse. C'est le guide des patriarches sous forme de colonne de feu dans le désert. C'est de lui que parle à Zacharie et à Marie l'archange Gabriel. Pendant tout l'Ancien Testament, l'Esprit Saint a été la force, la puissance de Dieu pour préparer l'humanité à recevoir le Fils de Dieu. Et lorsque le Christ a pris notre nature humaine, l'Esprit Saint était avec lui. Rappelons-nous les paroles de Jean-Baptiste lors du baptême du Christ. Le Christ est ainsi rempli du Saint-Esprit dans tout ce qu'il vit et dans tout ce qu'il fait. Mais le Christ n'agit jamais seul, et son Père est aussi toujours partie prenante. Avant chaque miracle, si vous vous souvenez, il invoque son Père. En somme, la Trinité est un des dogmes essentiels de notre foi. C'est la Trinité qui agit partout. Le Christ n'aura de cesse de nous éduquer pour que nous comprenions que l'Esprit-Saint est aussi en nous, qu'il n'est pas restreint uniquement à sa personne. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas, vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il est en vous, avons-nous entendu. Alors pourquoi cet épisode de la Pentecôte, puisque l'Esprit-Saint était déjà là? Si le Christ est venu les instruire et leur donner les préceptes d'une vie en Christ, s'il est venu semer la bonne nouvelle, c'est aux apôtres et à tous ceux qui viendront qu'il appartiendra de moissonner, de témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. L'œuvre du Fils fut de sauver notre nature humaine par son incarnation, par sa mort, par sa résurrection. L'œuvre de l'Esprit-Saint est de nous déifier, et elle s'adresse à nos personnes. L'œuvre rédemptrice du Christ est une condition indispensable à l'œuvre déificatrice du Saint-Esprit. Mais aussi, c'est en recevant l'Esprit que les personnes humaines peuvent, en pleine conscience, rendre témoignage à la divinité du Christ. L'action du Christ et de l'Esprit sont inséparables et ne sont finalement qu'une seule économie de la Sainte Trinité, faite par deux personnes divines envoyées par le Père dans le monde. La Pentecôte est ainsi la naissance d'un nouveau corps divino-humain qui est l'Église. Nous en sommes les membres et nous sommes reliés à la tête qui est le Christ, comme le dit saint Paul dans son épître aux Colossiens. Et lorsque Jésus l'avait annoncé, Jésus l'avait annoncé parce que à sa question qu'il avait posée à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre avait répondu, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de lui dire, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » C'est sur la foi de Pierre que se bâtit l'Église de Dieu, pas sur la personne de Pierre, comme certaines institutions essayent de le faire croire. C'est sur cette foi que l'Esprit peut venir et œuvrer. Avec l'Église promise par le Christ, nous sommes loin de l'image d'institutions humaines contre lesquelles nous pestons si souvent. L'Église n'a qu'une seule nature, c'est celle du Christ, divino-humaine. Et elle est la gardienne des dogmes et des vérités révélées par le Père à travers le Fils. Et la première vérité, c'est son amour. L'Église est composée d'une diversité de personnes qui sont appelées à la déification. Chacun d'entre nous, nous avons reçu des charismes différents que nous sommes invités à mettre en œuvre au service de la communauté pour atteindre cet objectif. L'Église est un creuset dans lequel chaque personne est appelée à se transformer, à découvrir la véritable identité que Dieu lui a donnée et pas celle que le monde lui donne. L'œuvre de l'Esprit-Saint est de nous révéler qui nous sommes. L'Église est ainsi le lieu où se sculptent les fils de Dieu en devenir. C'est dans ce creuset que vont se transmettre les paroles du Christ reprises dans les Écritures, que les pères vont les interpréter pour les expliquer à chacun d'entre nous, et que vont nous être donnés à travers les sacrements les remèdes pour guérir les faiblesses et les défaillances de notre nature humaine. Et nous comprenons que la liturgie est l'action idéale pour nous laisser travailler par la Trinité. Dans le Credo, les pères ont donné quatre attributs qui caractérisent l'Église. D'abord, l'Église est une. C'est l'unité du corps du Christ. Et saint Paul l'a rappelé dans son épître aux Corinthiens. Je vous en supplie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez étroitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ce n'est pas une unité de rite auquel nous sommes appelés, mais une unité d'esprit et de sentiment. Deuxièmement, l'Église est sainte. Elle est invitée à manifester la sainteté, à s'ouvrir à l'Esprit Saint pour faire de nous des saints. Et ça veut dire vivre autrement que ce que voudrait le monde, et manifester d'autres logiques relationnelles que celles du monde. L'idée centrale est la parole du Christ à ses apôtres, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Évoluez de plus en plus d'un amour humain, amour psychique, souvent conditionnel, vers l'amour agapé que l'on reçoit de Dieu, vers cette qualité d'amour qui circule entre les trois personnes de la Trinité, un amour qui se donne pour le bien de l'autre, qui est le reflet de la gloire de Dieu. Troisièmement, l'Église est catholique, c'est-à-dire qu'elle est non seulement universelle et qu'elle n'a pas de limite, mais aussi que chaque personne de l'Église exprime, manifeste la totalité du corps complet. Chaque partie du corps contient la plénitude de tout le corps. Dans l'Église des origines, chaque communauté exprimait le mystère de tout, le mystère du tout, avec des particularités dans ses rites. Lorsqu'une Église prétend détenir à elle seule la vérité, elle n'est plus dans la catholicité. L'Église aussi est apostolique. Le mot apôtre vient du grec apostolos, qui veut dire celui qui est envoyé au loin. Dans l'évangile de Jean, le Christ leur dit : Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'attribut apostolique de l'Église, c'est la transmission de l'information de vie, la transmission de la manifestation de l'amour et la grâce divine qui convertiront le monde. C'est ce qu'ont fait les apôtres et que nous sommes appelés aussi à réaliser. L'Esprit souffle où il veut, pas plus dans une institution que dans l'autre. Mais celui qui se laisse habiter par l'Esprit devient l'Église de Dieu. À lui soit honneur, gloire et louange pour l'éternité. Amen.
Et dans tout de tout notre cœur et de toute notre esprit, Seigneur.